Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Merci d'avoir choisi Canal Académie pour cette émission Au fil des pages, émission littéraire. Comme le nom l'indique, les pages que je vous propose de feuilleter sont celles d'un dictionnaire, mais d'un dictionnaire différent des autres. Différent des dictionnaires habituels, puisqu'il s'agit du dictionnaire du désir de lire. Vous avez bien entendu. Alors à ce désir de lire, on va ajouter un plaisir, celui de recevoir les deux auteurs de ce désir de lire, Richard Escot et Benoît Janté. Bonjour Richard Escot.
Bonjour Hélène, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste, romancier, journaliste, passionné de rugby, journaliste à l'Équipe. Vous avez écrit beaucoup de livres sur le rugby.
Voilà. Je regrette de ne pas avoir écrit autant de livres, de dictionnaires comme ça et de livres de littérature pure, mais les choses sont en train de changer.
Mais oui, vous avez encore pas mal de jours devant vous, je vous le souhaite en tout cas. Et puis, bon, je trouve que pour le 15 de France, vous avez fait beaucoup de belles choses. Ça, c'est bien. Tant mieux pour eux et tant mieux pour
vous. Et je vois que le rugby est partout, même à l'académie.
Mais oui, absolument. Nous avons même le dictionnaire du rugby dans nos émissions. Voilà, parce que Jean Pruvot, dans sa collection Honoré Champion, nous a fait un dictionnaire du rugby. Et bonjour Benoît Janté.
Et bonjour.
Vous êtes écrivain, vous êtes journaliste, vous avez un gros défaut, je l'ai vu, je le sais, vous êtes un lecteur compulsif.
Oui, c'est
ça veut dire que vous lisez beaucoup ?
Oui, c'est un vice. La lecture, c'est le vice le plus doux qui soit, et, qui contient à la fois le remède et le poison. Donc je me soigne et je m'intoxique à loisir.
Voilà, on voit qu'il parle de poison, ça n'est pas étonnant, étant donné que le dernier ouvrage qu'il a publié, Benoît Janté, s'intitule « Ne donnez pas à manger aux animaux au risque de modifier leur équilibre alimentaire ». C'est chez Atlantica.
Et voilà, il a tout dit.
Alors aujourd'hui, on parle de ce dictionnaire du désir de lire. Et dans ce dictionnaire, vous nous offrez 100 romans contemporains du monde entier. Alors j'ai envie d'abord qu'on parle du désir et du plaisir, Richard Escot. Est-ce que c'est la même chose, le désir de lire et le plaisir de lire ?
Non,
comment vous diriez cela ?
Le désir, c'est quelque chose qui est, je dirais, instinctif. C'est un besoin, c'est une évidence. On ne peut pas vivre sans lire. Et puis c'est aussi quelque chose que l'on peut susciter chez l'autre sans avoir à le toucher. Et ça nous a beaucoup plu. Et en plus, il faut rendre à César ce qui appartient à Jean Pruvot, puisque c'est lui qui a eu l'idée de ce sous-titre et il faut l'en remercier ici. Quant au plaisir, je dirais que le plaisir est quelque chose d'un peu moins subtil, d'un peu moins profond, d'un peu moins craquant que le désir. Et effectivement, si on vous donne juste l'envie de lire deux ou trois ouvrages compris dans ce dictionnaire, je crois qu'on aura réussi notre entreprise.
Mais alors, j'ai oublié donc de dire que ce dictionnaire du désir de lire est publié en effet chez Honoré Champion dans la collection que dirige Jean Pruvot, Champion les dictionnaires. Alors vous, Benoît, que diriez-vous du désir et du plaisir ?
Alors le désir, c'est ce qui vient avant le plaisir, c'est ce qui nous est apparu comme essentiel de susciter. Lire, c'est quoi finalement ? Lire, c'est être curieux, c'est se dégager de soi et c'est s'ouvrir aux autres et au monde. Et c'est essentiel de donner envie aux gens de goûter à cet art qui est le dernier art lent.
Alors une confidence, lisez-vous de temps en temps sans plaisir ou sans désir ?
Sans désir, c'est pas possible.
C'est pas possible.
Il faut avoir l'envie d'aller à la rencontre d'un auteur, puisque lire, c'est entrer en dialogue avec un auteur. Sans plaisir, oui, quand je m'aperçois que le livre est en train de me tomber des mains. Et puis quand il m'est tombé des mains, là, ça peut être catastrophique comme déception, oui.
Et vous, Richard, vous lisez avec désir, avec plaisir ?
Alors moi, je recherche d'abord, avant d'ouvrir un ouvrage, je le prends au hasard, comme ça, quelques pages. Et j'essaie d'écouter la musique qui sourd d'un livre. Pour moi, la littérature, c'est de la musique. Je suis musicien par passion, par désir. Et pour moi, la littérature, c'est d'abord un son qui se dégage des mots. Je suis très sensible à ça. Et avec Benoît, c'est surtout là où on s'est retrouvés tous les deux, parce que nos différences, bien sûr, on les a mises en commun, mais il y avait quelque chose d'unique. C'est quel son est produit par un livre.
Oui, un écrivain, c'est une voix. Et c'est, comme l'a dit Richard, de l'image qui sort du son. Et ça, c'est essentiel. Une voix, pour qu'elle vous parle, il faut qu'elle suscite d'autres images. Seuls les grands écrivains y arrivent.
Alors, dans ce dictionnaire du désir, je voudrais dire que la préface, elle est signée par Olivier Barrault. Nous aimons ici beaucoup Olivier Barrault, qui est venu plusieurs fois à Canal Academy, dont on sait combien il est amoureux et fin connaisseur de la littérature. Et lui, il dit que l'attrait premier de ce dictionnaire tient justement en la judicieuse convocation du mot « désir ». Donc, le désir, c'est le maître mot de vous deux qui êtes complices. Alors, un autre mot sur lequel je voudrais vous interroger, c'est « sans roman contemporain ». Ça veut dire quoi, contemporain ? Ça va de quelle époque à quelle époque, si
alors, il fallait faire un choix, parce qu'on aurait pu commencer la dimension contemporaine le 1er janvier 2000, où on a préféré, nous, s'attacher au XXe siècle, qui nous est très proche. Et notre choix, c'était... On se posait la question, est-ce qu'on commence par Knut Hamsun ou par Proust ? Et Knut Hamsun a écrit une grande partie, enfin au moins la moitié de son corpus, avant 1900. On ne s'est plus posé la question, on s'est dit, voilà, pour nous, Jésus-Christ, hein, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, voilà. Ça sera Marcel Proust. Et donc, c'est après MP et donc, avant MP.
Après MP, d'accord.
Voilà.
Oui, les gens vivent dans le monde d'aujourd'hui. On sait que le futur, hein, c'est bateau de le dire, mais on va le rappeler quand même, s'enracine dans le passé. Et tous ces auteurs-là parlent des convulsions du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, ce qui a amené le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pas que de ça, mais surtout de ça. Et il nous paraissait essentiel de parler de ces auteurs qui au travers de leur témoignage, de leur voix, nous expliquent le monde tel qu'il aurait pu être et tel qu'il est. Voilà.
Mais alors, c'est le monde, ce sont les auteurs du monde entier. Alors,
tout à fait.
Le monde
tout
entier,
à fait.
Ça couvre évidemment tous les pays du monde, où il y a peut-être des pays où on n'écrit pas, je ne sais pas.
On écrit partout, je crois. On écrit partout, mais il nous est apparu assez facilement qu'il y avait des parents pauvres dans la littérature mondiale. La littérature africaine, et, par exemple, pour ne citer qu'elle, est assez dense. Et elle n'est pas très très connue, même si de nouveaux auteurs, enfin des auteurs d'aujourd'hui, commencent à avoir on va dire un public plus large. Ce sont des époques charnières. On sait les liens qu'ont tissé les auteurs de ces pays avec les pays qui les ont colonisés. Hein, leur culture les a baignés. Mais c'est aussi une route à travers l'indépendance, c'est-à-dire puiser ce qu'il y avait de meilleur dans la littérature, soit anglophone pour les pays sous domination anglophone, soit francophone, et à travers de leur mythe propre, créer une littérature authentique et originale. C'était assez intéressant.
Alors parfois on définit un objet par ce qu'il n'est pas, alors je voudrais au moins dire que votre dictionnaire n'est ni exhaustif, évidemment il n'y a pas tous les auteurs de romans du monde ni de tous les temps, il n'est pas non plus ni équitable, ni objectif puisqu'il répond à un choix. Alors vous avez fait ce choix en commun, quels ont été vos critères, Richard ?
Alors d'abord le critère c'est tout ce qu'on avait lu. Alors Benoît effectivement lit énormément, beaucoup plus que moi qui suis déjà un bon lecteur. Donc on a pris une feuille de papier, un crayon, et puis on s'est dit voilà, on va mettre une liste des ouvrages qui nous paraissent pertinents, en tout cas intéressants à lire. Et ça répondait à une question de la plupart de nos amis, vous qui lisez beaucoup, qu'est-ce que vous nous conseilleriez ? L'idée part de là. Et alors à partir de là, on s'est dit on va leur faire une liste. Et donc on est vite arrivé à 500, 600 ouvrages. Et on s'est dit c'est absolument impossible de mettre ça. Et au départ, notre idée c'était de mettre les 101 ouvrages de la bibliothèque idéale. C'était ça le titre initial. Donc on s'était arrêté au chiffre 100. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous n'en trouverez que 100 dans ce dictionnaire. Sinon, je pense qu'on pouvait faire 2000 pages. Et d'ailleurs, ce qui nous a posé problème en tant que lecteur, parce que d'autres dictionnaires de littérature existent, c'est qu'ils ne font aucun choix. C'est-à-dire que, justement, pour être objectif, ce qui n'existe pas, l'objectivité, on le sait, on n'a que des subjectivités maîtrisées, on arrive à 400, 500 ouvrages. Nous, on a trouvé un moyen d'en avoir autant, mais on vous expliquera, on vous dira... Vous verrez qu'on arrive à avoir presque 1000 ouvrages dans ce dictionnaire.
Alors justement, parlez-nous de l'organisation intérieure de ce dictionnaire, parce que c'est un dictionnaire, ça veut dire qu'il y a un ordre, forcément. Tout dictionnaire a un ordre, un ordre alphabétique.
Oui, bon, alors ça c'est venu après, c'est un choix de l'éditeur, c'est un vrai faux dictionnaire, c'est une vraie fausse anthologie, pour brouiller les pistes. D'abord, effectivement, comme l'a rappelé Richard, on a couché nos livres préférés sur le papier. On s'est aperçu, on ne va pas le répéter, que ça nous faisait beaucoup, beaucoup de titres, hein, mais on a été obligé de mettre des choix personnels qui ne faisaient pas l'unanimité par-devers nous. Et il faut rappeler que chacun de ces ouvrages traités dans le dictionnaire ressortent d'un consensus fort. Voilà, c'est pas moi je retiens celui-ci pour que tu puisses retenir celui-là. Ces livres-là, c'est des livres qui nous ont accompagnés, qui nous accompagnent toujours et auxquels on tient. Voilà, moment de vie, outil de compréhension du monde. Ces livres-là, c'est un choix à deux, un choix fort. Voilà, il faut le dire.
Alors, dans avec, l'organisation,
si je peux me permettre, Hélène, bah oui, avec, si je peux me permettre, quelques amis lecteurs, un petit panel d'une dizaine de personnes à qui nous avons demandé, voilà, vous partiriez sur une île déserte, quels seraient les 30-40 ouvrages que vous emmenez avec vous. Et donc, ça nous a aidé effectivement à conforter certains choix et puis à en découvrir aussi, parce qu'il faut l'avouer, il y a quelques ouvrages qui nous ont été suggérés parce que bon, on n'a pas une culture encyclopédique
on
totale.
Ne peut pas avoir
voilà.
Tout lu. Absolument.
Et donc, nous avons été aidés, il faut le signaler.
Oui, bon. Oui. D'autres se sont chargés de susciter à leur tour le désir
donc,
de lecture.
Donc le projet a fait des adeptes. Alors l'organisation intérieure de ce dictionnaire du désir de lire qui présente donc 100 romans contemporains du monde entier, d'abord une biographie, ensuite le contexte dans lequel le livre est sorti à l'époque et même le contexte dans lequel l'auteur a fait publier ce livre et puis le désir de lire, c'est-à-dire vos choix, vos coups de cœur. C'est comme un catalogue amoureux mais bien organisé.
Alors
et pour
là,
tous les auteurs, il y a ça.
Voilà, alors justement, je pense que c'est si je peux me permettre, je pense que c'est la qualité de ce dictionnaire. C'est pas tant le choix, parce que chacun finalement fera sa propre liste, et c'est ça l'intérêt, puisque nous en avons fait une liste bis, nous avons une liste bis à la fin, qui suscite aussi un deuxième désir, celui de dire, mais est-ce que finalement j'aurais pas mis dans cette liste bis qui est, bon, bref. L'idée, c'était d'avoir une biographie parce que ça nous permettait d'avoir un auteur, un livre. Imaginez bien que pour Beckett et pour plein d'autres, on aurait pu en mettre 7, 8. Enfin, donc, avec 6 auteurs, hein, on avait terminé notre dictionnaire.
Absolument.
Donc, on s'est forcé à ne mettre qu'un livre par auteur. En mettant le contexte, ça nous permettait d'avoir l'entière bibliographie ou en tout cas les livres les plus importants de chaque auteur. Donc c'est là où on rejoint quasiment nos mille livres signifiés.
Cités, oui.
Voilà. Et puis le désir de lire, la difficulté, c'était est-ce qu'on écrit le synopsis, est-ce qu'on résume le livre ou est-ce que justement, et c'est ça un petit peu le côté innovant de ce dictionnaire, on va pas donner juste envie de lire en restant à la surface des choses, mais en allant chercher et répondre à la question pourquoi vous devez lire ce livre. Parce que souvent, et Benoît va pouvoir enchaîner, on a trouvé plein de raisons, des raisons historiques, des raisons de littérature pure, de style. Effectivement, Benoît, là-dessus...
On le sait, ce qui reste, après tant d'années, après tant de siècles, la chose la plus durable en littérature, c'est le style. Et c'est d'abord le critère principal qui nous a amené à choisir tel ou tel auteur. Le but de l'ouvrage, c'était de faire un ouvrage de prescription, mais pas seulement de prescription. D'abord parce que nous ne sommes pas des critiques reconnus et que prétendre à l'exhaustivité, ça aurait été un peu fat. Non, il s'agissait pour nous de prendre le lecteur par la main, de faire une entrée biographique, même si on sait qu'on n'explique pas forcément la fleur par l'engrais, mais c'est quand même important de donner quelques pistes biographiques. Ensuite, de replacer l'œuvre soit dans l'époque qu'il a vu naître, soit par rapport justement à ce que disait Richard, l'œuvre globale, ce qui nous permettait de fournir des pistes au lecteur potentiel du livre pour qu'il puisse ensuite poursuivre la route solidement. Pour ce qui est du désir de lire, oui, pas résumer le livre, pas partir sur un commentaire pontifiant ou trop didactique, mais rester au bord des choses tout en donnant vraiment l'envie au lecteur de plonger là-dedans. La littérature, c'est une forêt obscure. Hein.
Vous dites une jungle, mais c'est plus joli une forêt, c'est vrai.
Oui, c'est une forêt obscure et c'est une forêt. Dans les forêts, plus on s'avance, plus il fait sombre. Et les gens ont souvent peur d'y aller.
C'est une boussole, finalement.
Voilà, oui,
c'est quelques balises. Non, mais c'est vrai, j'ai des amis qui ne liront jamais Céline ou Beckett pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Moi, j'estime que c'est de mauvaises raisons. Et il faut. Ça, je trouve que c'est bien d'expliquer aux gens que le livre, c'est des mots et qu'il faut aller voir de ce côté-là. Oublier la stature du grand écrivain, oublier tout ce qu'on a pu en dire. Il faut s'y plonger. Après, ça plaît pas. Mais si, quand quelqu'un ouvrira ce livre, s'il l'ouvre, il y a un auteur ou même deux qui retient son attention, c'est le pari gagné.
Il y en aura même plus, j'en suis absolument persuadée, si j'en crois ma propre expérience, qui après vous avoir lu, ai tout de suite commandé beaucoup de livres, parce que je ne les avais pas lus.
Lesquels, par exemple, allez.
Écoutez, il y en a plein, malheureusement, parce que je n'ose pas dire tous ceux que je ne connaissais pas. Mais on va y venir, parce que dans un court instant, on marque une pause et on parle des auteurs, parce que tout de même, il faut parler des auteurs et de leurs livres dans cette émission.
La bibliophilie est à l'honneur sur Canal Académie. En compagnie de notre bibliologue Bertrand Gallimard-Flavigny, vous découvrirez des ouvrages et manuscrits rares présentés avec esprit dans l'émission Au fil des pages. Le bibliologue, une rubrique de Canal Académie, à écouter et télécharger sur canalacademy.com.
On revient dans ce studio de Canal Académie avec Benoît Jantet et Richard Escaut, les deux auteurs du Dictionnaire du désir de lire. Et on va parler évidemment des 100 romans en question. On ne va peut-être pas les traiter tous les 100, mais en tout cas, vous allez voir qu'on va pouvoir les diviser en, à mon avis, plusieurs sortes. Alors, il y a d'abord les auteurs et le roman qu'on a lu, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qu'on a lus, heureusement. Les auteurs qu'on a lus, mais justement pas ce roman-là. On va donner des exemples. Et les auteurs dont le nom nous dit vaguement quelque chose, mais dont, à vrai dire, on n'a rien lu. Et les auteurs dont le nom ne nous dit rien du tout, il faut l'avouer. Il y en a aussi beaucoup dans votre dictionnaire. Alors, voilà. Alors, commençons par les auteurs et le roman qu'on a lu, parce que ça, on ne va pas s'y attarder. Giono Regain, Camus l'étranger, Céline voyage au bout de la nuit, Gide les faux monnayeurs, Orwell 1984, etc. Il y en a quand même quelques-uns qui nous rassurent. Voilà. Alors, mais après, il y a les auteurs qu'on a lus, mais pas forcément le livre que vous conseillez. Moi, par exemple, j'ai évidemment lu Marguerite Duras, mais je ne crois pas avoir lu Le ravissement de Lowell Weinstein. Oui. Je ne sais même pas si je prononce bien.
Lowell Weinstein, oui.
Borges, j'ai évidemment lu, mais là, vous parlez de Fiction, qui est un autre livre qui est peut-être moins connu que La Tour de Babel ou que d'autres. Hermann Hesse, Le loup des steppes, ça j'aurais peut-être dû le mettre dans la première catégorie. Et Stefan Zweig, La pitié dangereuse, je ne suis pas sûre d'avoir lu celui-là, beaucoup de biographies, mais peut-être pas celui-là, voilà. Après, les auteurs, alors dont le nom nous est connu, mais dont on avoue, en tout cas moi, que je n'ai rien lu, Jorge Amado, Charles Bukowski, Carlos Fuentes, Günter Grass. Alors parlez-en un petit peu, parce que moi je ne les ai pas lus, je ne peux rien en dire.
Oh, écoutez, oui, ben nous, le problème, c'est qu'on les a lus et je pense que les férus de littérature, effectivement, pour eux, Günter Grass ou Jorge Amado sont pas des inconnus. Moi, je voudrais plutôt citer, parce que j'étais obligé de découvrir moi aussi, parce qu'avec Benoît, quand on a eu cette liste, on avait forcément des noms en commun. Vous les avez cités au début, des auteurs en commun, des livres en commun. Et puis après, nous nous sommes dit, rien qu'avec notre passion pour la littérature américaine, anglo-saxonne, française, italienne, sud-américaine et d'Europe centrale, c'est terminé. Le livre est fait. On s'est dit, mais il y a 5 continents. Allons oui. chercher aussi en Inde, allons chercher
Japon,
en Asie,
Chine,
allons chercher au Japon, en Chine, en Océanie. Et ça, ça a été notre vrai travail. C'est un travail de, on va le dire, hein, de 4 ans. Et pendant 4 ans, il faut relire les livres, il faut essayer d'en lire le plus possible sur un seul auteur. Et ensuite, il faut découvrir. Et là, ça a été un vrai travail de recherche où on a affiné jusqu'à aller le plus profondément possible. Moi, je vais vous avouer que Chitra Diva Kanuri, je ne la connaissais pas.
Diva Kanuri.
Voilà, et donc c'est Benoît qui me l'a fait découvrir. Donc je suis un peu comme vous. Il y a dans cet ouvrage 2-3 auteurs, et Benoît, c'est certainement un peu pareil aussi. On est allé chercher en profondeur.
Alors,
donc c'est
Benoît,
davantage ceux-là qui sont pour nous des vraies découvertes.
Alors vous, lesquels vous avez découvert? Alors Richard Escaut.
Pour être tout à fait clair avec
voilà,
vous.
Voilà, tout à fait honnête.
Pas beaucoup, mais Rika Alaharja, je n'avais pas lu. Diva Kanuri, c'est Benoît qui me l'a fait découvrir. Ensuite, pour être Orhan Pamuk, c'est vrai que j'en avais peu lu. Et là-dessus, Benoît a été formidable. Et puis moi, la grande révélation pour moi, c'est Nikos Kavadias avec Le Car. Ça a été une révélation. Et je dois remercier publiquement Benoît pour m'avoir fait découvrir cet auteur.
Alors Benoît, vous, est-ce qu'il y a des auteurs que vous avez découverts grâce à votre complice?
Oui. Des auteurs que j'avais pas forcément envie de relire, que j'étais obligé de relire, mais c'est devenu du plaisir. Voilà, il y avait le désir.
Voilà, pas de désir, mais du plaisir.
C'est rapidement devenu du plaisir. Je n'avais pas envie de les relire pour de bonnes et de mauvaises raisons, surtout des mauvaises, concernant Céline, entre autres. Et je crois que c'est ce qui nous est arrivé à tous les deux pendant qu'on préparait ce livre, c'est ce qu'on voudrait qu'il arrive aux gens qui vont s'en saisir. Souvent, on est guidé par des a priori, grâce ou à cause de la vie de l'auteur, parce que tel ou tel auteur, je pense notamment à Jack London, que j'ai redécouvert grâce à Richard. Jack London, aujourd'hui, on l'a mis dans une niche, si je puis dire, littérature jeunesse, finalement. On ne parle que de ses livres de voyage, mais c'est d'abord un auteur social. Hein, Martin Eden, c'est un livre éminemment social. qui nous parle encore aujourd'hui, voilà, qui anticipe Kerouac, et comme moi, on est fan de Kerouac, et quand on se met à relire Martin Eden, on se dit, ah oui, là, tu as été bête. Avoir essayé de passer à côté pour des préventions un peu idiotes, mais on est formaté par tout ce qu'on entend, par tout ce qu'on a lu jeune, quand on a fait des études de lettres, comme c'était mon cas, etc., etc. Il faut faire fi de tout ça, il faut se dégager de soi. Voilà, pour comprendre le monde, il faut se dégager de soi.
On a un conseil de lecture, écoutez bien. Alors moi, il y en a plein d'autres que j'ai découverts, mais je vais vous en citer quelques-uns. Russell Banks, que je n'avais pas lu du tout,
oh là là.
Nick Hornby,
oh là là.
Kazuo Ishiguro, Carson McCullers, Arto Paasilinna, et quelques autres encore. Et alors là, j'ai pris un coup de bambou quand j'ai découvert que Chinua Achebe, ou Achebe, je ne sais pas comment on dit.
Achebe.
Achebe, qui est donc un auteur sud-africain. On apprend que son roman Le Monde s'effondre a été tiré à 12 millions d'exemplaires et traduit à 50 langues. Alors quand on ne l'a pas lu, là on en prend quand même un coup à sa modestie.
Alors oui, un auteur africain de grande échelle qui est presque le précurseur. Hein, c'est l'équivalent de, on va dire, allez, un mélange de Grac, de Céline et de Proust en Afrique. Il est le référent absolu de tous les grands auteurs africains. Et vous savez, en préambule, vous vous rappelez, au tout début de notre discussion, il y a quelques minutes de cela, nous parlions justement de ces continents abandonnés parce que la littérature y foisonne, la poésie y foisonne, très riche, et parce qu'ils ne sont pas dans les grands cadres médiatiques, eh bien, on les oublie. Et aujourd'hui, quand on parle de littérature africaine, on pense à l'Afrique du Sud, alors qu'il y a des pays africains extraordinaires. Et nous, notre force, le livre Chaka, par exemple, Achebe et d'autres, notre force, je crois, dans ce livre, c'est de nous être forcés, justement, à aller chercher ailleurs et
oui.
Autrement.
Et vous réussissez, vous nous ouvrez des fenêtres et des portes sur une autre littérature sur laquelle on n'est pas forcément porté immédiatement. J'aurais aimé de temps en temps que vous nous disiez une petite idée de l'importance du roman dont vous parlez, parce qu'on ne sait pas si c'est un opuscule ou si c'est un énorme roman de 800 pages.
C'est fait exprès.
Il n'y a pas de... Voilà, c'est fait exprès.
Ah oui, 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 on peut dire beaucoup de choses en 100 pages, on peut aussi ne pas en dire en 300. Je pense que là. Ça n'a aucune importance, en fait.
Ça n'a aucune importance.
Les deux extrêmes, finalement, ce serait Grossman, hein, qui est un ouvrage de 1500, qui peut être 1500 pages.
Ah oui.
Bon, nous, on l'a. Après, je vous donnerai une petite parenthèse, je vous ouvrirai une incise, vous verrez pourquoi. Alors, donc, on peut partir de Grossman, 1400 pages, et puis Ullmann, hein, Fred Ullmann, L'ami retrouvé, à peine 100 pages,
un livre
magnifique d'une beauté. Et alors, l'idée, c'était que si forcément aujourd'hui, dans une période du fast reading, du fast food, du zapping, si on annonce, voilà, ce livre-là fait 100 pages, achetez-le tout de suite parce que c'est facile à lire, je pense qu'on ne sera pas dans l'objet de ce dictionnaire qui est d'abord de susciter du désir et non pas une économie de lecture. Et ensuite, tous ces livres sont disponibles en folio. Il faut savoir que nous avions d'autres choix, 4-5 choix, et à part un.
À part Grac, évidemment.
À part Julien Grac, où là, effectivement, c'est la librairie Corti, ça, c'est clair. Mais tous sont en folio, sont disponibles à un prix modique et souvent abordable à 10 euros.
Alors l'incise, c'est ça ? C'était le prix.
Ça, je la referme.
Alors l'incise est faite. Et moi qui ai un regard évidemment un peu déformé à cause de l'académie et des académiciens, j'ai évidemment cherché les académiciens. Il n'y en a pas beaucoup dans le livre, mais ouf, si vous êtes sauvés et pardonnés, il y a tout de même Ismaïl Kadaré, membre associé étranger de l'Académie des sciences morales et politiques, et Marguerite Yourcenar, pour son œuvre noire de l'Académie française. Mais comme c'est votre choix, les autres académiciens ne vous en tiendront pas rigueur, du moins je l'espère pour vous. Alors, un mot sur votre style. Ben, moi, j'ai trouvé que vous aviez une manière de présenter ces livres et de nous donner envie de lire dans ces livres très allègres, très joyeux, très dynamiques. Et comme vous l'avez dit, ce n'est pas scolaire, ce n'est pas ennuyeux, ce n'est pas pompeux, c'est tonique. Voilà.
Nous sommes des passeurs. Donc, le style, on le met de côté, surtout quand on aborde des auteurs aussi immenses. On essaye de donner envie. Et surtout de se mettre en retrait. On a voulu le faire de façon... On voulait prendre les lecteurs rétifs par la main pour qu'ils se laissent faire et qu'ils aient envie de nous suivre dans cette promenade. Voilà. Donc le style, Non, il ne s'agissait pas de rivaliser d'abstraction avec l'objet traité. Ce n'est pas de la critique pure, c'est entre les deux, comme disait Richard, entre la prescription et puis le commentaire.
La première chose, donc, c'était une sonate à quatre mains, parce que ce n'est ni l'écriture de Benoît ni la mienne, puisque nous écrivons chacun de notre côté. Et puis, c'était vraiment le plaisir aussi de partager cette écriture, de travailler à deux, d'échanger. Nous avons retravaillé chacun de notre côté, on s'envoyait les textes. Et puis, l'autre chose, c'est qu'on s'est fait quand même parfois un petit plaisir. Je sais par exemple que sur Albert Camus, quelqu'un, c'est pour ne pas le citer, c'est Jean Prouveau, nous a dit « Oh, j'ai cru lire un peu à la façon d'eux ». Et donc, c'est vrai que sur quelques ouvrages, il y avait un petit peu « à la façon d'eux ».
Bon, alors en refermant votre dictionnaire de lire, et on ne saurait que le recommander, car véritablement, il donne envie de découvrir des œuvres et des auteurs, comme on l'a dit, évidemment. En refermant, que fait-on ? Ou on se résigne à ne pas avoir tout lu ? Mais tout de même avec regret, parce que ceux que vous mentionnez là, en vous lisant, se disent « ont l'air excellents, il faut vraiment que je m'y mette ». Donc on a envie, on se précipite chez son libraire avec sa carte bleue et on achète au moins 50 romans, parce que sur les 100, je suis prête à parier qu'il y en a un sur deux qu'on n'a pas lu. Et au moins, ou alors on prend une bonne résolution, j'en achèterai un par mois et je le lirai, c'est promis.
Bah les deux se valent, mais c'est surtout un jeu. Donc c'est de piquer l'intérêt du lecteur et qu'il se dise on va voir vraiment si c'est de bons auteurs dont il parle, surtout pour ceux qui en seraient inconnus.
Oui.
Donc et puis aussi on prend le risque de les décevoir. Hein. Les goûts de chacun sont différents, mais c'est un jeu. Et par le biais de ce jeu, c'est toujours pareil, susciter la curiosité.
Et puis il faut rendre aussi hommage encore une nouvelle fois à Jean Prouveau. Hein,
oui.
Parce que Jean nous a incité à créer un index, alors l'index des lieux, et surtout l'index des thèmes abordés, et c'est ça la grande force de ce dictionnaire. Si par exemple vous avez envie de lire sur des livres sur l'ambition, sur la calomnie, sur la corruption, sur la nature, la misère ou l'enfance, dans l'index vous retrouverez par exemple, si on parle d'engagement, c'est un mot fort l'engagement, vous pouvez aller lire Blanchot, Dagerman, Grasse, Lessing, Oz, Rulfo, Yourcenar, et c'est déjà une piste intéressante, et il y en a une cinquantaine de pistes comme ça. Donc voilà, nous sommes au carrefour.
Facile de les classer, hein, certainement. Et puis alors, il y a donc, avec tous ces index, ça c'est effectivement le travail de l'éditeur compétent, avec tous ces index, il y a donc une liste bis. Alors pour terminer, on va savoir un petit peu la liste bis. C'est 100 auteurs différents que vous recommanderiez aussi.
Oui, c'est pas une façon de se dédouaner, mais c'est une façon d'être modeste. Tout exercice compilatoire, enfin la compilation idéale, ça n'existe pas. Et on se disait que ce livre, enfin dans ce livre, parmi nos recensions, ces livres-là auraient pu aussi y figurer. Donc c'est une autre façon de susciter à nouveau la curiosité de celui qui ou de celle qui va ouvrir ce livre-là. Il y a aucun désir d'exhaustivité. Voilà, c'est pas, il faut lire ça.
C'est impossible.
Non. Et autant le dire de façon nette dès le début, ce sont des choix affectifs très forts, mais on ne prétend pas vous présenter, même si on pense quand même que toute la... Il faut être modeste quand on parle de littérature.
Et puis, nous sommes dans une génération cinéma. Moi, je suis un grand amateur de DVD, et ça, c'est quasiment les scènes coupées. Le bonus, hein, comme on fait à la fin d'un quand on achète un DVD, voilà, il y a des bonus, on y va, voilà, les suppléments. Voilà.
Merci Richard Escaut, merci Benoît Jantet de nous avoir présenté ce dictionnaire du désir de lire 100 romans contemporains du monde entier, qui est un catalogue amoureux, qui est publié chez Honoré Champion dans la collection Champion les dictionnaires. Véritablement, vous ne regretterez pas de le lire et de l'acheter, je vous le conseille. À bientôt et merci.
Merci à vous.